L'épluche livre.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire
Pas grand chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches comme ça.
Puis ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle et on mange. Des cornichons de la
boutade. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Il est de certains livres comme des sables mouvants. Lorsque vous pensez avoir trouvé pied, le sol se dérobe et vous voilà à rebours de vous-même. Vous voici avec ce sentiment persistant et têtu, ce sentiment de n'avoir sur les événements qu'une prise toute relative et que la moindre brise vous fera immanquablement tout lâcher.
C'était une fois, c'est comme ça qu'une histoire commence.
J'ai la chance de recevoir aujourd'hui en studio Eléa Marini. Bonjour Eléa.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Vous êtes donc primo-romancière. Votre premier roman a paru à la rentrée d'hiver, donc de janvier, aux éditions de l'Olivier.
Oui.
C'est bien ça. Et ce roman s'intitule « Le ciel, la mauvaise ». Est-ce que vous pouvez, pour démarrer cet entretien, nous parler un petit peu de vous, vous présenter ?
Oui, donc je m'appelle Eléa, j'ai 37 ans, j'habite à Montpellier. Je travaille comme script de fiction sur des séries, des films. Et donc j'ai un très grand amour du cinéma depuis longtemps et puis un amour tout aussi grand pour la littérature depuis à peu près aussi longtemps. Et j'ai d'ailleurs enseigné le français avant de revenir au cinéma. J'avais démarré par des études de montage et puis finalement j'ai bifurqué vers les lettres et enseigner le français langue étrangère pendant quelques années. Mmh. Et voilà, je suis ensuite revenue vers le cinéma. Donc il y a tout cet entrecroisement depuis longtemps. Et voilà, et j'ai écrit donc ce roman, qui est mon premier roman, et qui est sorti il y a quelques mois maintenant.
Alors de quoi parle-t-il ?
C'est un roman qui parle des éléments qui se déchaînent, puisque dès l'ouverture du texte, on a la sensation très claire qu'un cataclysme est sur le point de se produire. On comprend qu'il y a un ouragan qui est en chemin, une très violente tempête. Mmh. Et cette tempête va favoriser la rencontre approfondie et la première rencontre entre trois personnages clés, qui seront les trois personnages centraux du roman. Un préadolescent mm-hmm. qui s'appelle Beau, une jeune femme qui s'appelle Alma et un homme d'âge un peu plus mûr qui s'appelle Isaac. Et c'est sur la façon dont ils vont pouvoir traverser cette catastrophe ensemble et puis surtout essayer de reconstruire quelque chose du quotidien après la catastrophe.
En termes de catastrophe, donc on parle ici de pluie diluvienne, on parle ici de la fin du monde tel que les personnages l'ont connu, on parle de maisons détruites, on parle de devoir aller en exil, alors même si c'est la ville entre guillemets d'à côté, ça reste un exil subi. C'est des sujets qui vous tiennent à cœur ?
Oui, complètement. Il y a quelque chose dans la notion, je pense, de déracinement qui n'est pas quelque chose que j'ai vécu, mais qui, en tout cas, fait écho à quelque chose en moi et qui me touche. Et la façon dont les catastrophes climatiques génèrent inévitablement ces formes d'exil, que ce soit à l'intérieur de son propre pays, de sa propre région ou parfois plus loin encore, c'est quelque chose qui résonne beaucoup et puis qui, bon, de fait, est aussi ultra contemporain et qui est une je pense, une peur qui nous anime un peu. Pas forcément tous, mais qui en tout cas est de plus en plus là. Et qu'est-ce que ça peut faire à une personne de perdre à ce point l'entièreté de ses repères, que ce soit finalement par une catastrophe naturelle, une guerre ou autre, mais cette question de l'exil, en tout cas forcé, crée quelque chose de la redécouverte totale de soi, j'imagine, en tout cas dans ce que moi je me représente, tout en étant bien entendu très extérieur à ce vécu là mais voilà, c'est des choses qui me touchent. Je le vois juste si vous voulez dans le rapport à la peur de perdre son foyer avec toute une partie de ma famille proche qui habite dans le sud des États-Unis est régulièrement amenée à évacuer quand il y a des annonces d'ouragan, avec cette peur de tout perdre et de perdre son foyer. Et pour certains, pour les maris de mes cousines, etc., enfin, c'est arrivé dans leur famille. Et voilà, c'est quelque chose à chaque fois qui fait un écho très fort en moi, quoi.
Oui, puisque l'exil, on le voit tout au long du roman, on le ressent, c'est la perte donc de ses repères, c'est la perte du foyer. Il y a un passage donc de votre ouvrage, puisque donc nous avons parlé des trois personnages principaux, on va en parler encore, donc Beau, Alma et Isaac. Il y a aussi trois sujets qui moi m'ont marqué, donc le vent, qui est quelque part aussi un personnage en plus d'être un sujet, la confiance et l'oralité. Les échanges parlés. Là, nous allons, sur cet extrait que je vais lire rapidement, nous intéresser à Alma et nous intéresser au vent, puisque elle observe donc le gymnase, le lieu de refuge où, après le cataclysme, ils se retrouvent tous les trois. Trois inconnus, mais liés par ce qui vient de se passer, ces événements qui les ont rapprochés. Et donc tous les trois, bien sûr, et les autres. Là, je vous lis. Les repêcher, récupérer sur des toits ou des radeaux de fortune. Tous ont ce même air, fiévreux et halluciné, le dos voûté, les bras mous comme des poupons en tissu. En se heurtant au corps sur son chemin, Alma se dit que les vents ne se sont pas contentés d'emporter les choses. Ils ont aussi changé les gens. Les vents ont ce pouvoir-là, réellement ?
Oui, moi je me raconte ça. Il y a quelque chose avec le vent qui est présent depuis vraiment mon enfance, qui est une peur viscérale du vent. Quand j'étais enfant, je pouvais faire des crises de larmes énormes quand il y avait du vent dehors, parce que j'étais absolument persuadée que je pouvais m'envoler, que le vent pouvait m'emmener comme ça très, très loin de tout.
C'est lié à votre histoire familiale états-unienne ou...
Non, là pour le coup, ma famille ne vivait pas encore aux États-Unis à ce moment-là, donc non, là c'est vraiment une peur d'enfant très ancrée. Aujourd'hui encore, le vent me stresse, quoi. Et pourtant, malgré ça, j'ai eu envie d'écrire là-dessus. Parce que je pense que, effectivement, il y a dans ce mouvement-là, qui est en fait d'une immense violence, il y a quelque chose de quelque chose qui peut s'évaporer, quoi. Le vent, il dissémine, il peut détruire, il peut avoir un retentissement sur les choses, mais effectivement aussi finalement sur ce qui se passe à l'intérieur même de soi. Enfin, moi je me dis ça parce que là, avec cette catastrophe-là, comme chacun des personnages est amené à reconstruire un foyer, Les vents, en fait, ont créé ce truc de faire table rase du passé. Et donc, ça les modifie quelque part parce qu'ils sont forcés de se confronter à des choses nouvelles, à une absence absolue de repères. Mmh. Et donc, ils sont ce vecteur-là, à la fois de la perte, mais aussi, quelque part, de la reconstruction par rapport à un passé qu'on peut désormais peut-être un peu mieux affronter, enfin, dans l'idée de, voilà, peut-être davantage regarder de plus près ses deuils, ses blessures, ses démons, etc. Parce que d'un coup, le vent a tellement tout bousculé, tout remué, à la fois la terre, les matériaux, mais aussi quelque part l'intérieur, les émotions. Ouais. C'est bon, bien sûr, c'est moi qui me.
Non, mais c'est comme ça que je l'ai lu, et c'est pour ça que moi j'ai perçu ce vent de mon prisme de lectrice. Hein. Après, je ne suis pas lectrice de métier, je suis simplement libraire, mais c'est vrai qu'on lit beaucoup. Ce vent est mouvant, ce vent oblige les personnages et nous oblige en tant que lecteurs à être toujours en déplacement, à être toujours. Non pas en ressassement, mais en renouvellement des repères, de ce qu'on connaît. Et ça rejoint, donc on va peut-être, si vous êtes d'accord, creuser un petit peu plus le personnage de Alma, qui est exilée pour la deuxième fois, finalement, dans ce roman.
Oui, 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 tout à fait. Elle, elle a ce chemin, ce parcours de vie où elle est déjà dans un pays qui n'est pas son pays d'origine, où elle est déjà dans un rapport à la langue qui est particulier parce que ça n'est pas sa langue maternelle. Sans trop en dire, on comprend qu'elle a déjà vécu un exil et que, un peu au hasard de ses pas, elle est arrivée dans ce lieu-là, dans lequel elle a un peu, bon an mal an, reconstruit quelque chose de l'ordre du coup du foyer et du repère, hein, toujours ce mot qui revient.
Et puis cette maison, cette chambre au mur bleu.
Voilà, tout à fait. Une chambre, dans cette petite maison un peu de fortune, parce que tous ces personnages vivent dans un quartier qui est plutôt défavorisé, dans des maisons assez vétustes.
On imagine facilement la Louisiane ou alors des quartiers, comme on voit un petit peu aux infos, de Détroit, un petit peu abandonné. C'est ce genre d'environnement ?
Oui, oui. Pour moi, en fait, le point de départ, ça a clairement été, dans mon imaginaire, l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. J'ai fait le choix de ne pas citer les lieux parce que j'avais pas, comment dire... j'y ai beaucoup réfléchi. Il y a eu des versions de lecture avec des marqueurs un peu plus forts géographiques, sans toutefois citer les lieux, mais des marqueurs un peu plus... qui pouvaient donner davantage d'indices, on va dire. Et puis finalement, je me suis dit que... j'étais pas documentariste, j'étais pas historienne, j'étais pas spécialiste de ces questions-là, et je pouvais pas non plus être la porte-parole d'une catastrophe que je n'avais pas vécue, parce qu'il y a eu évidemment une portée politique et sociale, économique extrêmement forte. Pour moi, c'était délicat d'être, d'arriver avec quelque chose comme je suis pas dépositaire d'un témoignage sur cet événement-là, mais il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup heurté dans la façon justement dont les populations les plus précaires ont été traitées, ou plutôt même abandonnées vraiment au niveau de l'État, du gouvernement. Et donc, ça a inspiré le point de départ de l'écriture, avec l'envie de gommer un peu les traces pour que finalement on puisse aussi sentir, imaginer un lieu qui pouvait être celui-ci, celui de la Louisiane, mais peut-être un autre lieu. Certains y ont vu Haïti, d'autres l'Asie, d'autres... Enfin, voilà, en fait, finalement, tout est possible, et j'aimais bien cette idée-là. Mmh. Et pour en revenir donc au personnage d'Alma, en effet, on comprend que, elle a vécu ce premier exil, et cet événement climatique dramatique l'a conduit à en vivre un deuxième... le premier était peut-être choisi, le second est davantage subi, ce qui ce qui forcément a quelque chose, des répercussions sur cette notion profonde d'ancrage, ou à quoi en fait on se raccroche et comment on recompose un peu aussi avec la question du désir pour sa propre vie et le sens qu'on y met, quand en fait tout ce à quoi on s'était un petit peu raccroché jusque-là disparaît, quoi, et qu'à nouveau on est replongé dans un bain de nouveauté absolue.
Merci beaucoup. Donc, nous arrivons au mi-temps de cette émission, plus précisément, et nous avons la chance de pouvoir écouter un titre que vous avez choisi de nous partager. Est-ce que vous pouvez nous le citer ?
Oui, c'est Swimming Pool de Kendrick Lamar.
Merci beaucoup. On écoute.
Hold up. Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up, Frank. Fade it, Frank. Fade it,
Frank. Nah, I done grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people wanna kill their sorrow. Some people wanna fit in with the popular. That was my problem. I was in a dark room, loud tunes, looking to make a vow soon that I'ma get fucked up, filling up my cup. I see the crowd mood changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip. Then somebody said to me, nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive.
Hold up,
Frank.
Headshot,
Frank.
Sit down,
Frank.
Stand up,
Frank.
Pass out,
Frank.
Wake up,
Frank.
Fade it,
Frank.
Fade it,
Frank.
Okay, now open your mind up and listen to me, Kendrick. I'm in your conscience. If you do not hear me, then you will be history, Kendrick. I know that you're nauseous right now, and I'm hoping to lead you to victory, Kendrick.
If I take another one down, I'ma drown in some poison, abusing my limit. I think that I'm feeling the vibe. I see the love in her eyes. I see the feeling of freedom is granted as soon as the damage of vodka arrived. This how you capitalize. This is parental advice. And apparently, I'm over-influenced by what you are doing. I thought I was doing the most, and someone said to me,
nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Hold up,
Frank.
Headshot,
Frank.
Sit down,
Frank.
Stand up,
Frank.
Pass out,
Frank.
Wake up,
Frank.
Fade it,
Frank.
Fade it,
Frank.
Chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang. All right, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang.
Nigga, why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor, and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive in it.
Hold up,
Frank.
Headshot,
Frank.
Sit down,
Frank.
Stand up,
Frank.
Pass out,
Frank.
Wake up,
Frank.
Fade it,
Frank.
Fade it,
Frank.
Vous écoutez L'Épluche Libre. Nous sommes en compagnie d'Eléa Marigny, autrice aux éditions de L'Olivier, du titre Le ciel, la mauvaise. Vous venez d'entendre donc le choix musical de notre invitée, Est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau qui me plaît beaucoup, que je ne connaissais pas, que je vais sûrement rajouter à ma playlist?
Je l'ai choisi parce que, déjà, c'est un morceau que j'adore,
ouais,
que je trouve incroyable et je peux l'écouter à l'infini, je ne m'en lasse toujours pas. Il y a un petit truc affectif aussi, c'est sur ce morceau que j'ai rencontré mon mari.
Oh, c'est trop chou.
Mais c'est un morceau que j'aimais déjà beaucoup avant. J'aime beaucoup le rap. Et là, le lien que j'aurais pu faire, en fait, avec le texte, il y a deux liens. Le premier, c'est que j'aime beaucoup le rap et j'aime notamment cette question de l'oralité dans le rap. Je suis très sensible à l'oralité, on va en parler, je crois, juste après. Donc, et la poésie et ce mélange de poésie et d'oralité qu'on retrouve justement dans le rap. Et ce morceau-là, n'est pas francophone, en effet, donc c'est pas évident de tout comprendre, donc j'avais bien sûr été chercher le texte, et c'est un texte qui parle de l'alcool. Moi, il me fait un petit peu penser en fait au personnage d'Isaac. C'est un texte qui parle de la dépendance à l'alcool, et simplement le lien que je pourrais faire, c'est que c'est une question, je trouve, qui est fondamentale, le rapport aux dépendances quand on vit des choses difficiles. Très nombreux sont les gens qui ont des rapports à la dépendance, parce que la vie est dure, clairement. En sous-teinte, dans ce texte, même si c'est pas abordé frontalement, le personnage d'Isaac, on le voit boire régulièrement de l'alcool. Ouais. Pour moi, c'est un personnage qui est, comme les deux autres, qui est extrêmement heurté, qui a été extrêmement malmené par la vie, et qui a cette béquille, on a tous des petites béquilles, qui est l'alcool. Et voilà, cette chanson, je trouve que c'est... une chanson très puissante qui parle de cette façon dont on peut plonger dans l'addiction et jusqu'à s'en oublier et jusqu'à se détruire. Voilà.
Donc, le personnage d'Isaac qui a cette béquille, comme vous dites, moi, il m'a inspiré dans la lecture une thématique, donc la thématique de la confiance, de faire confiance, de donner confiance aussi. Et donc, ça rejoint la relation toute particulière qu'il tisse avec Beau, donc ce préadolescent qui, lui, perd sa maison, mais aussi perd sa mère au sens où elle disparaît pendant la tempête. On ne la retrouve pas, en tout cas pas immédiatement. et on rejoint par ici, donc, sur ce personnage de Beau qui est tout jeune, qui va devoir s'en remettre à ses adultes, Isaac et Alma, qui ne connaît pas, donc qui n'inspire pas forcément confiance, qui ne veulent peut-être pas inspirer cette confiance au départ, en tout cas pour Isaac. Et Beau, qui a en plus cet enjeu d'être au seuil de sa vie et dans les mouvements de l'adolescence. Est-ce qu'on peut creuser ce lien entre Isaac et Beau ensemble ?
Oui, c'est un lien effectivement qui démarre par beaucoup de rejet, beaucoup d'insolence, d'agacement, d'irritation. Oui. c'est une relation qui démarre quand même sous de mauvais auspices. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi dans l'écriture de ce texte, ce rapport à des liens qui sont des liens non choisis. Le rapport à des personnes qui deviennent une partie essentielle d'un quotidien nouveau, mais sans qu'aucun d'entre eux ne les souhaitait. Et donc chacun d'entre eux, au départ, vit finalement ce rapprochement un peu forcé, cette survie qui se passe là, par la force des choses, ensemble, immédiate, comme quelque chose de très douloureux. Aucun d'entre eux n'a envie d'être là avec les deux autres.
Ouais.
Et que ce soit Alma par rapport à Isaac, mais et particulièrement, effectivement, ce préadolescent Beau avec Isaac aussi. Et avec Alma, c'est un petit peu moins compliqué, mais néanmoins, c'est pas simple. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui est très difficile à se mettre en place, parce que, une envie pour chacun de pouvoir s'émanciper, de pouvoir retrouver sa vie d'avant, de pouvoir retrouver son autonomie, sa liberté. Et donc le fait de pouvoir faire confiance à l'inconnu, c'est très très difficile. Et donc de retrouver ce quotidien un peu balbutiant comme ça, dans un espace très neutre, un nouveau foyer, voilà, un appartement fait de meubles fonctionnels, sans âme, dans lequel ils finissent par échouer, et essayer de traverser un nouveau quotidien, une nouvelle vie ensemble, alors qu'ils n'ont au départ rien en commun, c'est un vrai apprentissage pour chacun d'entre eux dans leur place d'enfant, d'adulte, de femme, d'homme, de, voilà. Et parce qu'il y a des deuils qui sont en train de se faire, des deuils d'un passé, des deuils d'une mère disparue qui peut-être reviendra, peut-être pas, mais voilà, des deuils plus lointains encore, enfin voilà. Et donc la confiance, elle est vraiment au cœur de tout ça, cette confiance qui se tisse très progressivement.
Donc elle se tisse très progressivement, effectivement, on va découvrir toute une partie du roman où on aura accès à cette reconstruction, à cette tentative de reconstruction, mais même dans la situation initiale du cataclysme, cette confiance, elle est salvatrice, elle est forcée, mais elle sauve leur vie.
C'est oui, bien ça ? Oui, absolument, oui, oui. C'est vrai que c'est fait vraiment, au début, enfin, à regret.
Oui, oui, oui. Mais c'est... ils n'ont pas envie d'être tous les trois dans cette voiture, d'aller dans cette maison, inconnue pour deux d'entre eux, haïe pour l'un d'entre eux.
Tout à fait.
Et pourtant, s'ils n'étaient pas tous les trois dans cette voiture, ils seraient face au vent.
Tout à fait.
Et le vent destructeur à ce moment-là du roman.
Oui, donc c'est très à regret, mais c'est en effet une confiance placée dans l'autre parce que pas le choix et qui, oui, va les sauver quelque part. Ouais.
Dernier sujet, dernier thème qui va peut-être relier par rapport à vos inspirations en termes de lecture, l'oralité. C'est un roman où il y a énormément de dialogues, mais ce ne sont pas des dialogues qui facilitent l'écriture, ce ne sont pas non plus des dialogues qui vont faciliter la lecture, ce sont des dialogues qui vont venir donner un rythme et ce côté vrai, humain, naturel, décousu. Parfois, ben voilà, on n'a pas des discussions cousues de fil blanc avec un début, une intrigue, une fin de la discussion. Non, ce sont des discussions du quotidien. Moi, quand j'ai lu votre roman, j'ai pensé tout de suite à Un temps de saison de Marie Ndiaye et Des souris et des hommes de John Steinbeck. Est-ce que ce sont pour vous des sources d'inspiration sur cette thématique d'oralité ?
Alors, clairement, Des souris et des hommes, oui, ça c'est une de mes très grandes références, un livre que j'aime profondément, énormément, depuis très longtemps. Et c'est ce que j'aime absolument chez Steinbeck, c'est ce rapport à l'oralité et effectivement cette rudesse, ce côté brut qu'il peut y avoir dans les dialogues, mais allié à une forme de douceur aussi, de poésie, et comme la tendresse peut se dégager de ces dialogues-là en disant si peu quelque part. Ça, je trouve que c'est très très fort, et j'ai toujours été très sensible au dialogue aussi, parce que j'aime beaucoup le cinéma et je suis sensible au dialogue aussi au cinéma. Souvent quand il y a des gens qui disent quelque chose que je trouve drôle, touchant, poétique, enfin je les note dans des carnets. Je trouve que c'est une vraie nourriture une vraie petite nourriture comme ça, le dialogue, je sais pas, c'est oui, parce que la poésie est partout en fait dans le quotidien, je trouve, et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément ému chez Steinbeck, et donc c'est un auteur que j'admire profondément pour ça. Je trouve que c'est fascinant la façon dont il traite le dialogue. Et Un temps de saison, je peux pas dire que c'est été une source d'inspiration parce que je l'ai lu après la rédaction de ce texte, mais je l'ai absolument adoré. Et justement, enfin, au niveau atmosphérique, au niveau, enfin, il y a beaucoup de choses, peut-être plus que sur l'oralité. C'est ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est vraiment sur l'atmosphère que je vois des choses qui moi viennent me toucher profondément sur voilà les choses qui restent, ces disparitions irrésolues, sur
cette eau omniprésente, voilà. ce temps, cette nature qui
tout à fait
là, tel un personnage, même plus que les personnages parfois, puisque les personnages s'effacent
complètement, et l'étrangeté qui plane à tout moment. Et c'est un texte que j'ai trouvé fabuleux, incroyable, mais que j'ai découvert en fait assez récemment.
Ok. Pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous parler en deux mots de vos actualités à venir pour ce printemps 2026 ?
Alors, il y aura d'autres des rencontres en librairie encore à venir sur le printemps. Une invitation aussi pour une rencontre à la Comédie du Livre à Montpellier. Une invitation pour une autre rencontre croisée au Festival du Livre de Metz. Mmh.
Je crois que votre ouvrage est sur des listes pour des prix littéraires aussi.
Oui, ouais. Il est en sélection, en première sélection du prix des libraires. Donc ça, c'est vraiment incroyable, c'est merveilleux d'être dans cette sélection-là. Il est en première sélection du prix du premier roman Régine Deforge, pour le prix Habiter le Monde aussi, qui est un prix local
oui, tout à fait.
De la librairie Sorams et du journal Midi Libre. Pour le prix...
C'est une belle liste de prix à venir. Il y en aura forcément un qui sera,
Je ne sais pas, on croise les doigts. Mais voilà, il y a plusieurs... c'est vraiment merveilleux. Et c'est très... c'est incroyable pour moi de voir ça, d'apprendre ces nouvelles-là, de le voir dans des sélections. C'est très émouvant. Parce que c'est forcément aussi fragilisant de sortir un premier texte. Donc ça, c'est merveilleux.
Oui, c'est un risque qu'on prend.
Ouais, tout à fait, de se livrer
on lâche prise.
Comme ça. Ouais.
Toute dernière question, est-ce que ça vous plaît d'être autrice ?
C'est une bonne question.
En 10 secondes,
oui, je dirais que oui. Qu'il y a des parties extrêmement grisantes et plaisantes et d'autres plus laborieuses et difficiles, et c'est normal. Mais c'est incroyable, en effet.
C'est un grand oui, la vie d'autrice.
C'est un grand oui.
Merci beaucoup, Eléa.
Merci beaucoup à vous.
Jouer le jeu, d'être venue. On est très, très contents à la radio. Merci à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs. Merci pour votre écoute et gardez l'esprit curieux sur Divergence FM.
Les pluches livres.
Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle.
Inédite.
Que faut-il pour faire cette recette ?
Pas grand-chose. Voilà, qu'on coupe en deux.
Bien propre.
Ici, ça va me servir d'épluchure.
Vous voyez, ce livre, il est beau. Il a une belle typographie. Il a une belle gueule. Les livres ont une belle gueule comme les gens.
C'est un peu comme une fleur, en fait. Hein. C'est plein de pétales qui sont en strates, comme ça. Et il s'agit de venir gentiment les dégager.
Quand on lit des livres passionnants, ça devient même très passionnant.
Et je viens gratter, en fait, les premières couches, comme ça.
Oui, ce goût des mots, eh bien, il est resté en moi avec beaucoup de vivacité.
Et on referme le couvercle, et on mange des cornichons, de la moutarde.